Radio Django. Culture.
C'est 18h43, c'est la rubrique Cultiver Lausanne, dans laquelle nous allons parler de poésie en compagnie d'un invité que nous avons reçu la semaine dernière pour parler de lecture à haute voix. On vous le rappelle, c'est demain, mercredi 23 mai, de 14 à 18h à la librairie Peyo Lausanne. Alors ce soir, nous recevons à nouveau Timba Bema, écrivain, pour parler plus précisément de vous. Timba, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Alors le 11 juin, vous sortirez aux éditions Stella Maris un long poème en prose intitulé « Les seins de la monte ». Et on va le découvrir avec Ségolène, bonsoir.
Bonsoir Claudia, bonsoir Timba, bonsoir à tous. Donc oui, les Seins de la Mante abordent des thématiques telles que le rapport au passé, le colonialisme, la mémoire traumatique du corps ou encore la réconciliation avec soi-même. Donc Timba, comme Claudia l'a dit juste avant, vous êtes déjà venu sur notre plateau. Mais pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, comment vous vous présentez d'habitude ?
Bon, je me présenterai comme un artiste total et surtout comme un faiseur de sens. Faire du sens, donc, c'est-à-dire pour soi et pour les autres aussi.
Quelques mots sur votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à l'écriture poétique, à écrire des poèmes, par exemple ?
Bon, disons que j'y ai jamais réfléchi. Ça a été le premier canal par lequel l'expression, en gros, de l'écriture m'est arrivée. Donc, j'avais 12-13 ans à peu près, donc quand j'ai commencé à écrire mon premier poème. Avant cela, j'écrivais que des mots, c'est très drôle, mais j'écrivais que des mots sur la marge de mes cahiers. Et donc, la poésie, elle arrive sans que je sache pourquoi.
Quel est le rôle, selon vous, des poètes dans notre société contemporaine ? Parce qu'on a l'impression que les poètes, c'était avant, pour les sociétés, la France, c'était Baudelaire, par exemple, enfin, ces vieux anciens poètes, entre guillemets, du 18e siècle, 19e siècle. Puis maintenant, quand on parle de poètes, on a l'impression que c'est un peu désuet. Enfin, c'est une impression.
Oui. Moi, je dirais non. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on commence toujours par écrire par la poésie. C'est très drôle, mais je pense que si chacun regarde un peu dans ses souvenirs, il va retrouver que la poésie, ça a été le canal par lequel il s'est mis à l'écriture. Donc, c'était à peine on apprend à écrire qu'on se lance déjà dans la poésie. Donc, il y a cet attrait de la beauté, il y a vraiment cet attrait aussi de l'immédiateté, de la liberté que procure la poésie. Et moi, j'aime bien en fait cette notion de prophétie. C'est-à-dire que dans poésie, il y a prophétie, il y a le poète, c'est un prophète, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit des choses que d'autres ne voient pas et donc qui apporte cela comme une sorte de feu qu'il apporterait au reste de l'humanité pour mieux voir la vie. Et mieux voir la vie, ça signifie aussi mieux la vivre elle-même.
Timba Bema, vous réclamez le fait qu'un poème ne doit pas être seulement lu, mais doit être également déclamé à haute voix. Pourquoi ?
Oui, parce que bon, nous sommes aussi arrivés un peu à une période très particulière de l'histoire. C'est que compte tenu du fait que de plus en plus de personnes sachent lire, ça fait à ce que le texte, disons, on y accède simplement par une lecture silencieuse. Alors que le texte nécessite du rythme, c'est-à-dire que le texte engage du rythme, et le rythme de l'écriture, il est central. C'est-à-dire que même dans un simple roman, le rythme est capital. C'est un peu comme dans un film, quand il n'y a pas le rythme, on ne suit pas. Voyez. Donc, la voix aussi, c'est la voix de la personne qui porte. Par exemple, dans la Grèce antique, même chez moi en Afrique, dans la tradition des griots, par exemple, le poème est toujours dit, donc déclamé et puis chanté. Et donc, moi, je réclame justement cette reconnexion avec le chant. Pourquoi ? Parce que le chant, c'est l'une des vibrations, on va dire, les plus absolues, les plus infinies que l'être humain puisse accéder grâce aux mots. Donc, la réconciliation avec, disons, la lecture, hein, ou alors la déclamation et puis le chant est l'expérience, on va dire, la plus rayonnante qu'on puisse avoir du langage.
Ce soir, on parle de poésie, donc de culture plus largement. Parfois, on a l'impression que la culture est réservée à un cercle d'initiés. Enfin, la culture est quelque chose d'élitiste, où on fait des références à des grands auteurs, à des grands peintres, etc. Puis parfois, on ne connaît pas ces grands auteurs, on n'a pas lu tel ou tel bouquin. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui ont l'impression de ne pas avoir les outils pour comprendre et apprécier la poésie ?
Ben moi, je dirais quelque chose de très simple, c'est-à-dire oublier ça. C'est-à-dire beaucoup de gens en fait parlent des grands auteurs mais ne les ont pas lus. C'est-à-dire que dès le moment où vous lisez, vous vous rendez compte que beaucoup parlent sans avoir lu. C'est-à-dire qu'ils vont en fait faire de la récitation sur ce que d'autres ont dit et puis ainsi de suite. Il y a toujours en fait chez un auteur un regard particulier qu'on peut poser chez lui. Et ce regard particulier, il est juste lié à une chose. Il est lié au fait de savoir est-ce qu'il me touche ou pas, qu'est-ce qu'il évoque en moi ou pas, est-ce qu'il ouvre des portes en moi. Pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui ouvre des portes dans l'esprit de d'autres personnes, qui leur permet de voir des choses, d'accéder à des choses auxquelles ils ne pouvaient pas accéder avant. Donc, pour moi, la règle, elle est simple. Pas de complexe, mais si un auteur vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir bien simplement, de vous projeter dans la vie et de vous dire, mais grâce à lui, je vois les choses différemment, je les vois d'une meilleure façon, alors ça vaut le détour. Donc, il n'y a pas du tout de complexe à avoir, mais c'est plutôt d'écouter finalement son cœur. C'est ça qui est la chose la plus importante. Est-ce que ça me parle ou pas?
Et Timba Bema, par rapport à votre poème de prose intitulé « Les Saints de la Monte », qu'on l'a dit, vous allez le sortir le 11 juin. Oui. Je crois d'ailleurs que le titre en lui-même a une histoire.
Oui, c'est vrai que le titre, il a une histoire très particulière. Je prends des notes, hein, parce que donc, quand j'étais écolier au Cameroun, donc, je prends des notes et à la marge donc, d'un de mes carnets, j'ai écrit un long poème, Les Saints de la Monte. Je retrouve ces notes quelques années plus tard, donc, grâce à mon frère, et entre-temps, j'avais déjà écrit les quatre premières strophes du poème avec le titre Les Saints de la Monte. Donc, il y a déjà cette histoire vraiment très drôle comme cela, où je me rends compte que le projet était né il y a très longtemps, mais il m'avait poursuivi de manière inconsciente et il rejaillissait comme ça de temps en temps. Et donc, en retournant vers quelques écrits que j'avais faits, je me suis rendu compte que les éléments étaient déjà présents. Et donc, ça m'a donné l'envie de directement aller de l'écrire. Hein. Ça a été l'urgence. Là. Je me dis, ben voilà, il est maintenant temps d'y aller.
Donc, votre poème commence par le concept de transmission à travers la métaphore du corps, donc à travers le sein,
oui.
Les seins. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Oui. Il me semble que il y a un accent beaucoup plus important qui soit mis à l'esprit qu'au corps. Hein, on peut dire aussi, c'est un peu lié à cette notion de chrétienté, là, de la vie après la mort. C'est-à-dire que le corps, finalement, est périssable, mais c'est l'âme qui s'élève et puis qui atteindra le paradis. Après le jugement dernier, bien sûr, si on est choisi. Donc, ce qui fait que le corps, finalement, est perçu comme quelque chose de honteux, de dégradé, et qu'on ne devrait même pas finalement écouter. Et par contre, ben, c'est l'esprit qu'il faut protéger, privilégier et puis avantager. Et moi, je retourne un petit peu cette situation en disant que non, au contraire, le corps en lui-même emmagasine un ensemble d'informations qui nous viennent de notre passé. Il emmagasine un ensemble de sensations qui n'arrivent pas forcément à la conscience, simplement parce qu'on ne lui laisse pas cette possibilité-là. Et donc, c'est par finalement le corps, donc en écoutant un peu plus son corps, qu'on arrive à se libérer et à être finalement mieux. C'est-à-dire que le but de tout le jeu, c'est quoi? C'est la bonne vie. Hein? C'est de se sentir bien dans sa peau. Voilà. Et donc, écouter son corps, finalement, nous réconcilie avec ce que serait une bonne vie, par exemple.
Tima Bema, vous parlez de se libérer et dans ce poème, on comprend que pour se libérer, il faut souffrir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça?
Oui, bon, disons que je ne parle pas de sadomasochisme, bien sûr. Mais l'idée de la souffrance, en fait, est la suivante. Bon, c'est apparemment aussi un fonctionnement très spécifique de l'esprit humain, en fait, donc de l'esprit humain, de la société humaine, mais qui veut que finalement, quand nous avons un but à atteindre, nous ayons besoin de fournir un certain nombre d'efforts pour atteindre ce but. Et puis finalement, cette souffrance en fait devient tolérable dès le moment où on sait que le but va nous rendre meilleur, va nous permettre de nous sentir mieux. Et donc, c'est finalement ça, cette souffrance-là qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est cette souffrance qui nous permet d'accéder à une meilleure vie, d'accéder à un mieux-être finalement. Donc, j'aime bien aussi cette notion de mieux-être.
En l'occurrence, le protagoniste, le narrateur dans votre poème, lui va traverser certaines épreuves, va souffrir dans sa chair,
oui.
Parce qu'il refoule en quelque sorte un passé.
Voilà, et justement c'est ce poids-là. Je vais peut-être vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré lors d'une lecture à Fribourg que j'ai faite, une dame qui est noire, hein, totalement noire, mais qui a des origines européennes, qui a des origines africaines, des origines asiatiques et puis lapone. mais par contre, elle était, donc elle est tout noire. Donc, c'est justement ce genre de cas, c'est-à-dire que où on a une grande diversité que l'on n'a à l'intérieur de soi, mais qui ne se voit pas immédiatement. Donc, il y a justement cette question, est-ce qu'on peut écouter cette diversité qui réside en soi ou pas? Moi, j'ai tendance à me dire que le monde, finalement, tel qu'il est maintenant, signifie en fait qu'à l'intérieur de tout un chacun, il y a une part de tout un chacun d'autre. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'on peut écouter ça ou pas? Et je pense que c'est une très grande question, parce que par exemple, par rapport à des questions justement de domination, des questions par exemple de supériorité, d'autres qui vont s'estimer être supérieurs à d'autres, et puis ainsi de suite, si on se rend juste compte qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a une part de l'autre, peut-être qu'on aurait fait un grand pas.
Et en l'occurrence, votre narrateur, oui, dans son passé?
Oui, oui, et en l'occurrence, ben justement, c'est un peu le passé colonial. C'est-à-dire que le passé colonial, finalement, est arrivé comme créant une rupture. C'est-à-dire que donc, créant une rupture avec une autre manière de voir le monde, on va dire. C'est-à-dire que quand je parle de rupture, c'est vraiment dans la manière de voir le monde. Donc, et la manière de voir le monde se transforme de telle enseigne que, finalement, son héritage est perçu comme négatif contre celui qu'il reçoit de d'autres qui est perçu comme positif. Et c'est ce renversement donc, de son regard, finalement, qui va le libérer de ce passé-là.
Alors, je pense que pour terminer, Timba Bema, je crois que vous vouliez nous déclamer quelques vers qui se trouvent dans votre poème « Les seins de la monte ».
Oui. Et je peux vous dire, je ne l'ai pas en fait là avec moi, mais je vous dis les quatre premières strophes hein, qui sont « Maudits soient les seins de la menthe, dont le lait t'a comblé de vanité et des poisons doux de cette folie douce qui brûle comme un enfer ton corps sur terre. » Voilà.
Super, merci Timba. Du reste, demain, vous serez à 19h30 au Buzz à Lausanne.
Oui, oui.
Vous allez faire une lecture à voix haute, c'est
oui,
bien ça?
Oui, donc il y a une lecture performance, donc il y aura de la musique, il y aura des percussions, je déclame aussi et puis je chante, voilà. Donc ça sera une très belle ambiance, c'est-à-dire l'idée ce serait vraiment de libérer cette énergie positive que l'on a en nous et puis ben, je vous invite bien volontiers à vous joindre à la fête qui, me dit-on, sera très très chaleureuse.
Et autrement, le 7 juin à la Dacha.
À la Dacha, oui. Voilà. Là, le grand rendez-vous. Là, on va passer du côté de la Sibérie, la Russie et tout. Ça va décoller, là.
Génial.
Super. Alors, Timba Bema, merci.
Merci.
On le rappelle, vous êtes écrivain, poète, artiste. Donc, je vous remercie d'être venu nous présenter votre poème « Les seins de la menthe », de l'avoir aussi déclamé avec cette musicalité.
Merci à vous.
Et nous vous souhaitons beaucoup de succès et une très belle soirée au Baz et à la Dacha.
Merci de l'invitation. Merci à vous.
Et merci à toi, Ségolène, pour la préparation de ce sujet. Et un sujet à réécouter en podcast sur notre site django.fm, vous y retrouvez également tous les liens nécessaires pour aller plus loin.